pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo.
Ursula, peut-être avant de reprendre un petit peu les conclusions du livre, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu dans quelles conditions tu as pu travailler pour faire ce livre. Je sais que tu es mère de deux enfants, que tu as eu ta vie, disons, qui se déroulait comme celle de toutes les femmes avec ses difficultés. Est-ce que tu veux un petit peu nous dire comment tu as fait pour travailler à travers toutes ces années?
Et c'est vrai que d'arriver à écrire, c'est une lutte, je pense, pour un homme comme une femme. Et c'est vrai que probablement pour une femme, c'est encore plus difficile. D'ailleurs, comme aussi d'être dans la recherche, parce qu'on a beaucoup d'obligations quotidiennes et c'est assez difficile d'arriver à tout concilier. Ce travail a été un travail très long, puisqu'il avait commencé en 81. Que j'ai mené ces recherches en parallèle d'une vie professionnelle qui d'abord a été consacrée à l'enseignement. Donc jusqu'à il y a 2 ans, j'ai travaillé comme professeur, ce que j'ai dit tout à l'heure, à Paris. Et puis que maintenant, je travaille depuis le début de l'année passée. Je travaille à Genève et j'ai la responsabilité de diriger un grand bureau qui est, je dirais, spécialisé dans la construction de logements sociaux, et ceci depuis assez longtemps. Donc c'est une continuité pour moi qui est passionnante, qui est de passer d'une réflexion théorique et des recherches pour essayer de clarifier ma pensée à une pratique professionnelle maintenant dans laquelle j'essaye d'appliquer un certain nombre d'idées. Et il a été particulièrement difficile ces 2 dernières années, de finir ce livre tout en menant à bien le travail que j'ai fait dans le cadre de ce bureau d'architecture. Je crois que je l'ai fait pendant 2 ans, une année et demie. Je ne crois pas qu'on pourrait faire autant de choses en même temps. C'est un peu dur. Je suis contente que c'est quand même toujours un peu un pari d'arriver à le faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment réellement transposer les idées qu'on peut avoir au niveau de la pratique professionnelle. Je crois que c'est la chose le plus grand défi.
Et est-ce que tu penses donc à travers ce travail que tu as maintenant, tu peux, disons, concrétiser un certain nombre des idées que tu as pu avoir à travers ton travail? Et puis je sais que tu es également conseillère municipale à Évian, donc que tu as encore cette facette-là dans ta vie. Donc, est-ce que là aussi, tu as choisi de faire ça pour pouvoir aussi concrétiser au niveau d'une communauté un certain nombre de tes idées?
Oui, tout à fait. Je crois qu'au niveau de la pratique professionnelle en tant qu'architecte, surtout dans la situation dans laquelle je me trouve, qui est d'un grand bureau, qui a des grandes opérations d'habitat, d'aller plus loin dans des idées nouvelles, ce n'est que des très petits pas qu'on peut faire. Bon, c'est déjà ça. Je crois que c'est important d'essayer de faire ces petits pas, de remettre en question l'organisation jusqu'à un certain point du logement, de créer des espaces extérieurs plus différencier de ce qu'on fait très souvent. Et il y a là, par exemple, une opération qui me tient particulièrement à cœur, qui est pour une coopérative d'habitation, dans laquelle, je crois, on peut concrétiser jusqu'à un certain point, en tout cas, certaines de ces idées qu'on peut avoir. Mais ta question en ce qui concerne Évian, où je suis effectivement conseillère depuis aussi une année et demie, depuis les dernières élections législatives, et où je suis entre autres membre de la commission d'urbanisme, ça me permet de peut-être aller plus loin. Ça va plus vite, curieusement, et je suis très reconnaissante au aux membres de l'équipe municipale et puis aux gens d'Évian, les habitants d'Évian avec lesquels j'ai des contacts, de m'avoir accueillie de la manière qu'ils l'ont fait et de te permettre de participer à la gestion locale. Et là, on est en train d'avoir des projets qui me semblent assez ouverts et je trouve assez enthousiasmants. On est entre autres en train de discuter de construire du logement social dans différents îlots. Et plus particulièrement, on est en train de réfléchir à un îlot en relation avec le front de lac dans lequel on aimerait être plus innovant. On vient de déposer une candidature au concours Europan. Alors, on pourra peut-être dire deux mots. C'est un concours d'architecture nouvelle ouvert aux jeunes architectes sur l'habitat, dans lesquels, justement, on réfléchit à des modèles tout à fait différents d'habitat de ce qu'on fait normalement.
Moi, j'aimerais te poser une question parce que, d'après ce que tu nous as dit, j'ai pu comprendre un peu comment le logement avait créé, sous-tendait une idéologie, comment elle filtrait à travers les murs et les formes des chambres. Maintenant, quand tu dis tes idées, alors comment est-ce que, justement, on pourrait construire un logement qui soit plus adapté à des femmes actives, à des femmes indépendantes, comme on espère, comme on voudrait l'être?
Alors, peut-être il faut que je te réponde d'abord encore en revenant sur ce qu'on n'a pas été. J'étais un peu théorique et abstraite quand j'ai parlé du modèle contemporain avec lequel on travaille. D'abord, j'ai parlé du modèle qui est fonctionnalisé. Donc, des tout petites pièces qui codifient absolument les gestes et les comportements. On ne peut pas utiliser une cuisine de manière différencier. La cuisine, c'est l'espace du logement qui, soi-disant, est consacré à la femme. C'est pour la femme qu'on l'a construit. Officiellement, dans tous les discours d'époque, c'était pour la libérer, pour que ça soit plus facile de travailler. Mais en fait, c'était une façon d'entériner une division de travail entre les sexes, puisque il y avait une seule personne qui pouvait travailler dans la cuisine. C'est la cuisine laboratoire telle qu'elle s'est mise en place dans les cuisines de Francfort et qui sont généralisées et qu'on trouve toujours aujourd'hui. Alors cette cuisine dans laquelle les enfants ne peuvent pas jouer parce qu'elle est trop petite, dans laquelle le mari ou les enfants ne peuvent pas aider parce que aussi c'est trop petit, on voit bien ce type de travail de la femme. Et aujourd'hui, avec un nombre de femmes qui sont toujours plus un nombre de femmes toujours plus grand qui travaillent professionnellement, la division de travail à l'intérieur de la maison est remise en question. C'est une des choses difficiles, je crois, pour les femmes parce que les hommes ne suivent pas toujours. C'est une charge épouvantable pour une femme d'aller travailler à l'extérieur, rentrer le soir et être en charge de travail domestique. Donc déjà le cadre, il faudrait qu'il soit différent. Et de plus en plus, on voit que les gens finalement aujourd'hui souhaitent avoir des espaces, si on parle que de la cuisine comme exemple précis, que ce soit des cuisines ouvertes, soit des grands espaces, soit communiquant avec les séjours dans lesquels plusieurs personnes peuvent travailler en même temps et ceux qui travaillent peuvent échanger avec ceux qui sont dans des espaces attenants. Je trouve que là, c'est le cœur. Ça devient vraiment le cœur de l'espace domestique, mais un espace totalement différent, un espace de sociabilité, et non pas un espace hygiénique, un espace fonctionnel tel qu'il a été conçu au départ. Moi, je dois sourire. Je vois toujours, j'entends toujours des maîtres d'ouvrage me dire « Oui, mais la cuisine que vous devez faire pour ma femme, elle souhaiterait qu'elle soit comme ci et comme ça. » C'est toujours, chez beaucoup d'architectes, chez beaucoup de maîtres d'ouvrage, la cuisine est toujours le lieu de la femme. Et ça ne correspond absolument plus à ce comment les gens vivent. Mais je crois qu'il faut souligner une chose, c'est que dans les années 60 encore, il y avait en France et je pense aussi en Suisse à peu près une proportion de 2/3 de femmes qui étaient des femmes adultes, qui étaient des femmes au foyer, contre 1/3 de femmes qui étaient actives professionnellement. Aujourd'hui, dans les grandes lignes, cette proportion s'est inversée. Il y a 2/3 de femmes qui sont actives, 1/3 des femmes qui sont des femmes au foyer. Et on voit dans tous les pays industrialisés, dans tous les pays occidentaux, que ce pourcentage de femmes qui travaillent continue à évoluer. Alors j'ai parlé du partage des tâches domestiques qui est interpellé par le travail professionnel. Il y a d'autres choses, il y a la relation parent-enfant aussi qui change. Les femmes au foyer ont en général une attitude toute différente par rapport à leurs enfants. Si on faisait de la provocation, on pourrait presque dire que les femmes au foyer aujourd'hui disposent trop de temps pour leurs enfants et les maternent trop. Bon, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais disons que ça peut aller un peu dans cette direction. Alors que les parents, dans les familles où les deux parents travaillent, les enfants acquièrent beaucoup plus d'autonomie et ils vont utiliser le logement de manière différente. Justement encore la cuisine. Mais la cuisine peut être aussi l'espace dans lequel les enfants vont prendre leur snack à différents moments de la journée sans que les parents soient là, tout en regardant peut-être la télé. Bon, on voit bien que la relation fonctionnelle est remise en question. Pour revenir à ta question, il est difficile, je crois que ce n'est pas non plus souhaitable de dire voilà, l'espace du logement, il était comme ça, défini de manière stricte. Et moi, j'ai fait une contre-proposition, ça devrait être maintenant comme ça. Je crois qu'il faut, la réponse est de dire, il y a des gens qui vivent aujourd'hui de manière très différente. Il y a des ménages de toutes sortes. Les modes de vie évoluent assez rapidement. On n'a pas une règle pour tout le monde. Donc, il faudrait avoir des espaces beaucoup plus nuancés, beaucoup plus flexibles, qui pourraient être appropriés en fonction de chacun, selon ses besoins propres. Et c'est ça la question qui me semble peut-être la plus importante en ce qui concerne l'intérieur du logement. Mais si tu permets, je continuerai encore pour dire qu'il n'y a pas seulement une question d'espace intérieur. Justement, le modèle avec lequel opèrent les architectes aujourd'hui est centré sur l'espace intérieur. Et ça a été en fait un peu au détriment de l'espace public. Justement, on parlait du quartier ouvrier dans lequel l'espace public était beaucoup plus important que l'espace privé. Je crois que ce que beaucoup, beaucoup de gens aspirent, c'est qu'il y ait une vie de voisinage qui a une signification, qui n'est pas cet anonymat dans les quartiers. Et ça passe aussi par la création des espaces accueillants au voisinage, en prolongement des espaces privés. Là-dessus, il y a tout un travail d'architecture aussi à faire, qui est une graduation entre l'espace privé, familial, l'espace semi-public, autour des entrées des logements, des entrées des immeubles et des espaces publics qui sont vraiment appropriables par des groupements de quartiers, par les gens d'un immeuble, etc. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui part peut-être de la vie des femmes, mais qui est plus largement une aspiration aussi des enfants, en fait, un peu de tout le monde. Donc je crois que ça c'est important. Et sur ces espaces publics, se greffe aussi tout ce qui est équipement. Je crois que là aussi, c'est un point qui me tient à cœur. Parce qu'on a développé de manière extraordinaire le confort de l'espace privé. On a des choses qu'on n'a jamais eues auparavant, qui vont de l'eau courante qui n'existait pas au départ, jusqu'aux équipements ménagers qu'on connaît, aux équipements, tout ce qui est communication. Mais par contre, on n'a pas réfléchi à la qualité des équipements collectifs. Et là, il y a des besoins qui seraient à développer qui sont très importants et qui permettraient d'organiser le travail domestique de manière plus collective qu'aujourd'hui, que c'est le cas aujourd'hui.
Moi, j'ai aussi une question, par exemple, est-ce que dans ton livre, dont je n'ai pas pu voir la totalité, as-tu pensé aux habitats qu'on fait actuellement pour les personnes âgées, que pour moi, me semble une aberration de les mettre toutes dans un immeuble. Pourtant, là, il y a des systèmes, un système social et communautaire qui a été mis en place, et qui pour moi est une aberration.
Ah, je partage tout à fait ton avis, et je crois que on va dans le sens, je crois, d'une manière générale, à éviter ce type de programmation. C'est vrai que c'est aussi lié, je ne l'ai pas développé dans mon livre. Je n'ai pas, disons, la fin de mon livre, j'ouvre un certain nombre de questions auxquelles je ne donne pas. Bon, je crois que ce n'est pas à moi de donner comme ça des réponses. C'est plutôt à formuler des questions, à essayer de réfléchir d'une manière différente de ce qu'on a fait par le passé. Mais la question de l'habitat pour les personnes âgées concerne beaucoup aussi les femmes, parce que c'est les femmes aujourd'hui qui sont les plus nombreuses en tant que personnes âgées, puisqu'elles vivent plus longtemps que les hommes, hein, c'est les statistiques, et qu'on trouve beaucoup de femmes seules, âgées, dans des conditions assez difficiles. C'est un chapitre très important à développer. C'est vrai qu'on pourrait passer du temps. Je crois, moi, en tant qu'architecte, en m'étant posé ces questions, ce que je souhaiterais, c'est que dans les quartiers d'habitation, il y ait un mélange de logements pour des familles de types différents. Donc aussi tous les ménages aujourd'hui qui apparaissent, qui n'existaient pas, il n'y a pas juste la famille standard pour laquelle on a construit toutes ces dernières années. C'est le père, la mère et les deux enfants. Et la réponse d'habitat, c'est le logement, séjour, salle à manger, deux chambres à coucher. C'est ce qu'on a construit. Et puis encore, on a des studios ou des deux pièces. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement ce qu'on a un peu évoqué maintenant, qu'il y a des transformations dans les modes de vie, comme les femmes qui travaillent, tout ce que ça implique, mais il y a aussi des ménages de types différents qui apparaissent. Il y a justement les personnes âgées vivant seules, qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a les familles monoparentales, qui sont souvent composées d'une femme avec un ou deux enfants, soit célibataire, soit divorcée, veuve. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'existait pas auparavant. Il y a toutes sortes de configurations familiales qui apparaissent. Et il serait intéressant, je crois, beaucoup plus riche, de ne pas faire des ghettos pour telle et telle catégorie sociale, mais d'avoir des ensembles qui permettent à différentes catégories sociales, différents ménages, de vivre ensemble. Je crois que ça va dans le sens de la question que tu viens de me poser, de ne pas bannir les personnes âgées dans des ghettos périphériques.
Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar y de jugarse la vida. La, la.
Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de parler avec Ursula Paravicini. Le livre qu'elle a écrit s'appelle « Habitat au féminin » et vous pouvez le trouver aux presses polytechniques et universitaires romandes. C'est un livre donc, dont je vous recommande beaucoup la lecture si vous aimez les femmes, si vous aimez l'histoire et si vous aimez les livres pleins d'images très intéressantes et pleins de détails concrets.
Et quand même aussi et l'architecture, aussi l'architecture. Au centre.
Et voilà. Si vous vous intéressez à l'architecture. Mais je pense que c'est un livre qui peut intéresser aussi les femmes qui ne sont pas dans le métier, dans la profession.
J'espère. C'est ce que ce que je souhaiterais, que c'est un livre qui s'adresse à un public plus large qu'un public professionnel d'architecte, qui d'ailleurs sont peut-être un peu perplexes face à... Ah oui, ce que je pourrais peut-être encore dire, c'est qu'un ancien confrère, enfin un ancien dans le sens que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, j'ai fait mes études avec lui à Lausanne, m'a téléphoné de manière extrêmement sympathique pour me dire que c'était bien et que j'avais sorti un livre et qu'il trouvait que j'avais fait une démarche très originale parce que j'avais lié l'histoire de l'habitat à l'histoire des femmes. Et moi, je dirais que ce n'est pas du tout original. Je dirais que c'est curieux qu'on ne le fait pas parce que de faire une histoire du logement sans parler de la famille et de la condition des femmes, c'est quelque part ne pas comprendre les pratiques et les valeurs qui sont... porté par l'habitat. C'est ne pas être conscient de ça. Donc, c'est vraiment lié. Mais j'espère que, c'est vrai, j'espère beaucoup que c'est un livre qui s'adresse à un public plus large, à des femmes qui s'intéressent un peu à comprendre quel est leur rôle dans la famille, dans l'espace domestique.
Est-ce que c'est un livre qui porte l'espoir d'avoir un changement au niveau de l'aménagement intérieur et extérieur, surtout, et d'une vie un petit peu plus sociale, avec, d'une manière générale? Et est-ce que c'est un livre qu'on peut prendre pour les vacances, là, toute proche, pour lire à la plage?
Alors, oui, je crois que si on peut l'emmener dans les vacances, ça serait super. C'est pas moi qui peux répondre, parce que moi, je suis peut-être pas vraiment objective. Pour moi... Quand tu dis est-ce que c'est un livre qui s'ouvre sur le futur, c'était en tout cas mon objectif. Je crois qu'on peut remettre en question les modèles avec lesquels on fonctionne, les modèles aussi bien sociaux dans lesquels on fonctionne, les types de relations entre les sexes dans la famille, ou en tant qu'architecte, les modèles d'organisation spatiale. Si on est conscient, qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer comme valeur? Je crois que c'est un préalable de comprendre à quoi correspond le logement contemporain pour pouvoir devenir plus imaginatif, se libérer de ses carcans et aller vers quelque chose de vraiment différent.
Eh bien, je crois que c'est une très bonne conclusion. Je rappelle le titre du livre, c'est « Habitat au féminin », dont... par Ursula Paravicini, qui est née en Argentine. Et voilà pourquoi nous sommes en train de passer des tangos. C'est en son honneur et pour nous réchauffer le cœur par cette journée triste que le livre a été édité aux presses polytechniques universitaires romandes et qu'on peut le trouver en librairie dès à présent. Alors je te remercie d'être venu jusqu'à l'antenne pour nous parler de ton livre. J'espère qu'on va se retrouver dans des murs un peu plus agréables, peut-être grâce à toi. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
En el amor y en la guerra.
Nous avions projeté de passer ensemble, mais je ne voudrais pas. Nous arrivons au terme du temps que nous devions passer ensemble, mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous rappeler que demain, jeudi 21, qui est aussi le premier jour de l'été, c'est l'inauguration officielle de la maison et qu'on vous attend toutes à partir des 18h, que l'adresse, c'est donc la maison Centre Femmes, 30 avenue Péchier. Je voudrais aussi vous rappeler que pour ce même jeudi 21, jour de l'été, Anne-Marie Capelli et Claudine Roulet signent leur livre. Anne-Marie Capelli qui a présenté son ouvrage la semaine dernière et Claudine Roulet pour son livre Le Samovar et la chronique mozambicaine dont on a parlé sur les ondes. Ça aura lieu à la librairie L'Inédite, 18 avenue Cardinal Mermilleux, et l'heure, bien sûr, de 17 à 19 heures. Ou si peut-être vous dire qu'à partir de vendredi, pendant une semaine, la MR se déplace aux Cropettes et que le Grand Festival va sortir tous les soirs encore deux concerts différents. Donc rendez-vous sur les arbres et au soleil. Au revoir la semaine prochaine.
wonderful love is a beautiful love is a heavenly thing.